David Attenborough. Sir David Attenborough est un rédacteur scientifique, écrivain et naturiste britannique, né le 8 mai 1926 à Londres, menant une carrière de professionnel dans le monde média privé et public. Il a été un acteur, technicien, scénariste, réalisateur, producteur privé, journaliste à la BBC, responsable d'un cadre, du cadre manager de la BBC en fait. Bref, Sir David Attenborough a fait des reportages sur Netflix. Et le dernier en date, c'est justement David Attenborough, Une vie sur notre planète. Je voulais vous parler de ça. J'ai écouté ça hier soir. C'est un reportage qui est super intéressant sur bien, bien des aspects. Le premier, évidemment, ben, c'est ce qui me tient un petit peu à cœur en ce moment. Les axes de prise de conscience par rapport à ce qu'on va laisser, à ce qu'on va laisser à nos enfants dans l'avenir. Ce qui est une belle prise de conscience qu'on peut avoir, surtout dans un contexte où, en pleine pandémie en ce moment, on se dit, merde, on aurait pu voir ça venir. Comment ça se fait? Faut attendre un vaccin. Ben ça, la vague, première vague, deuxième vague, ça, c'est mineur. D'après ce que je lis, je m'informe et je me documente, dans l'histoire de l'humanité, c'est très, très mineur. C'est un battement de cils, c'est rien par rapport à ce qui pourrait nous attendre et ce qui va nous attendre si on ne fait rien pour le climat. Et bref, ce reportage commence dans une ville, on la voit souvent, une ville complètement désertée, des immeubles brisés, des appartements, des maisons vides depuis plusieurs dizaines d'années, pas loin de Tchernobyl, où, ben on le sait, hein, ceux qui ont vu la télésérie Tchernobyl, qui est un docu-reportage. Je sais qu'il y a eu de la polémique par rapport à ça, mais n'en demeure pas moins qu'il y a eu des manquements et qu'il y a une centrale qui a sauté. Et ben c'est ça, Sir David Attenborough commence son reportage dans cette ville-là pour expliquer que l'homme est capable du pire. Et après ça, il commence à parler de sa carrière, puis il explique vraiment que ce documentaire-là, c'est son leg. Il n'y a pas besoin de ça pour vivre, ce reportage-là. Il n'y a pas besoin de le faire. Lui, il a en haut de 90 ans. Les enjeux climatiques, visiblement, il ne les subira pas, ou très très peu, dans l'histoire de sa vie. Alors lui, c'est vraiment un leg qu'il veut faire. Et on voit son parcours depuis plusieurs années dans la savane, en Afrique, un peu partout, où il nous montre la beauté de la nature. Et rapidement, il glisse. Je pense qu'il commence dans les années 50. Et à chaque décennie, il nous explique ce qu'il voyait, puis parallèlement, ce qui commençait à se détruire. Il dit que lui, il a été parmi les chanceux de pouvoir faire tout ce qu'il a fait. On le comprend très bien. Et on voit un peu les dérives et certaines prises de conscience des humains. Notamment la chasse aux baleines. La déforestation en Amazonie. Chaque seconde, l'équivalent d'un terrain de football, de foot, est coupé. C'est coupé. c'est remplacé par de la monoculture de palmiers à l'huile, c'est ce qu'ils appellent. C'est pour faire de l'huile de palme qui est utilisée partout dans l'alimentation. Peut-être il y a une prise de conscience par rapport à ce produit-là en ce moment d'ailleurs. Et ben c'est ça. Des gros arbres majestueux coupés en Amazonie à raison de, tenez-vous bien, un terrain de foot à la seconde. Il y a. En 2014, j'avais lu qu'il y avait plus de la moitié de la forêt amazonienne qui avait été décimée. Là, je pense c'est qu'il en reste encore beaucoup moins. Et c'est ça, David Attenborough explique ça. Explique aussi les coraux. Les coraux qui meurent un peu partout sur la planète. Parce qu'à la surface, de la Terre, on voit des choses assez incroyables. Mais sous les océans, il y a aussi beaucoup de choses pas très joyeuses. Alors on voit lui qui découvre la nature pendant plusieurs décennies. Et des choses qui commencent à disparaître en ce moment. Et on se rend compte d'un truc, c'est que depuis un petit peu moins d'une centaine d'années, ce qui est très 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 peu dans l'histoire de l'humanité, depuis moins d'une centaine d'années, l'homme est en train de prendre le contrôle sur la planète. Pas un bon contrôle parce que il y a plusieurs espèces qui disparaissent. Il expliquait que dans 1 km² de forêt amazonienne, il y avait un truc comme 10 fois plus de sortes d'arbres différents que dans nos forêts canadiennes, exemple, ou probablement les forêts européennes aussi. Ce qui montre que on a l'espèce d'écosystème de diversité naturelle qui s'auto-régule elle-même avec des prédateurs, avec des cycles, est en train de totalement disparaître. Et puis il y a des fortes, fortes, fortes conséquences sur, ben, notamment bientôt les changements climatiques. Fait que ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on nous explique ben, les enjeux qui arrivent. On nous explique même. On nous explique même par décennies futures ce qui va arriver. À quoi il faut s'attendre? C'est pas joyeux, là. D'ici les 40-50 prochaines années, c'est vraiment pas joyeux. Et puis, je regardais ce reportage-là. Et puis évidemment, mais c'est genre de reportage qui vous fout un peu le moral à terre. Et ben le dernier tiers est un petit peu plus. Comment je dirais ça? Solutionniste. Est un petit peu plus ambitieux. Te donne le goût ben, de continuer à vivre finalement. Quand tu regardes les 2 premiers tiers du documentaire, tu dis ouais, ben, ça vaut pas grand-chose. Et là, David Attenborough a été présenter des choses à l'ONU et ainsi de suite. Et c'est pas n'importe qui, là. C'est pas quelqu'un qui pourrait amener des idées farfelues sans fondement. C'est très, très appuyé, étayé. Et il arrive avec des solutions. Des solutions qu'on peut mettre en place dès maintenant. D'autres qui vont prendre presque, on va dire, de 5 à 10 ans pour se réaliser. Mais tout ça se fait dans une très, très courte fenêtre pour revenir à ne plus tant contrôler la planète, mais à contrôler les humains. Puis c'est ça un peu le reportage, c'est que on voit que dans les dernières 100 ans, on a essayé de contrôler la planète beaucoup. La nature sauvage de ce qu'elle renferme. Et puis finalement, ben, c'est nous autres qu'il faut se contrôler. Et c'est ce qu'il explique. Alors des choses super concrètes et très simples. Il parle du Japon. Où ben, le taux de natalité sur la planète, c'est pas. On comprend que c'est un problème, là, parce qu'au fur et à mesure des décennies de ces reportages, on voit la population augmenter, augmenter, augmenter. 2,5 milliards, 4 milliards, et ainsi de suite, ça augmente tout le temps. Et visiblement, la proportion de pollution et d'espaces naturels diminue pour les espaces naturels, et pollution augmente. Fait que c'est intimement relié tout ça. Alors, il montre qu'au Japon, la population ils ont des problèmes, hein, par ailleurs, parce que, pour le moment, c'est pas encore fini, mais ils ont une plus vieille... les tranches d'âge élevées sont plus nombreuses que les tranches d'âge jeunes, mais ils ont quand même réussi à stabiliser, même voire diminuer un peu, la population du Japon. Comment? Ben, avec des trucs simples, ça fait partie de la deuxième partie, où il explique que plus de confort, plus de civilisation, plus d'éducation, et notamment sur un truc que je commence à prendre conscience aussi, plus d'éducation aux femmes, ben ouais, si on dit que les femmes viennent l'égal des hommes sur la planète, faut qu'elles aient la même éducation. Et ça fait partie de ces points ben que on va falloir éduquer les gens. Pas éduquer sur le climat, éduquer tout simplement. Et que les femmes aient le même poids que les hommes pour que les décisions, le pouvoir soient répartis comme il faut. Alors on voit ça aussi dans son reportage en termes de solutions. Il parle des fonds marins où il présente certaines îles qui ont réussi à reprendre le contrôle sur leur écosystème au niveau des coraux, au niveau des poissons, au niveau de plein de trucs. Il propose un truc assez simple. Et je pense que c'est ce qui va être fait dans les eaux internationales. C'est qu'un tiers des eaux internationales vont être réservées et il y aura des interdictions de pêche. Évidemment, il y aura encore des bandits, des abrutis, des imbéciles. Mais quand on commence à catégoriser et protéger des aussi grosses superficies, ça va être aussi de facto assez facile de vérifier qu'il n'y a pas des dérapages. Alors ça fait partie de ces solutions. Et puis évidemment, la première de toutes qui a un impact considérable, on va attendre que l'avion passe. Avion, tiens d'ailleurs. C'est fou qu'il fasse autant de bruit. C'est vraiment hallucinant. Ça, on appelle ça de la pollution sonore. C'est fou à cette heure-là. Il est 6h15 du matin. Je ne me souvenais pas que les avions faisaient autant de bruit le matin. Hein, ça reprend un peu hein, l'aviation, hein, les voyages, il y a des trucs qui reprennent. Mais soit ils volent trop bas. Bref. Alors là, le nez au milieu de la figure pour de solutions pour la planète, c'est pas le transport comme on vient d'entendre. Ça correspond le transport, la pollution à 15 ou 20%, je pense. Des choses qu'il faudrait régler, mais des sources de problèmes. Ce qui dépasse les 50% des enjeux, est-ce qu'il faut régler rapidement? C'est adopter un mode d'alimentation végétarienne. Alors, il va pas jusqu'à végétalienne, s'il y a un autobus qui va passer, une autre pollution. Au moins, c'est du transport en commun. On va laisser passer. Alors, pour info, c'est un autobus gigantesque avec un moteur probablement excessivement gros et qui transporte juste une personne. Tristesse. Mais bon. Ouais, c'est ça, la viande. Il parle pas de régime végétalien, mais il parle bien sûr d'un régime végétarien, mais en tous les cas, plus de viande. C'est vraiment le problème. C'est vraiment, vraiment, vraiment le problème. Les forêts amazoniennes sont remplacées par l'exploitation. Ben, on parlait pour l'exploitation d'huile de palme, mais majoritairement de terre pour cultiver du soya, pas pour le tofu. Je vous annonce tout de suite que c'est pas pour le tofu, c'est pour nourrir le bœuf, pour nourrir les animaux. Ça, c'est un axe complètement contrôlable. Alors évidemment, tout ce que je dis là va avoir des incidences économiques. Ça, ils l'abordent pas. Ça, ils l'abordent pas. On peut en parler dans une autre capsule, mais ce que David Attenborough parle, c'est vraiment d'arrêter l'alimentation. Il fait aussi un aparté sur l'énergie fossile. Ça m'amène à une réaction où je pense que j'ai bien réagi sur Twitter. Hier soir, j'ai vu Dodge Ram pour fêter l'anniversaire d'un camion gigantesque du passé. Ben, ils l'ont ressorti avec un V8 6,4 litres. Et j'ai tweeté ça en disant ça n'a aucun sens. Je ne me rappelle pas exactement les termes, mais je trouvais ça très très frustrant quand je pense à mon ami Philippe qui dépense une fortune pour acheter une Tesla pour ne pas polluer, ou d'autres hein, qui se privent pour avoir des véhicules électriques, et que je vois encore des abrutis. Je pèse mes mots. En dehors de ceux qui en ont besoin pour le travail, qui représentent une minorité, là, c'est clair. Eux autres, total respect, vous avez besoin de ça, c'est un outil de travail. Quand l'électrique arrivera, j'espère que vous switcherez à l'électrique, mais en attendant, il n'y en a pas. Mais ici, en Amérique du Nord, les véhicules les plus vendus sont quand même les pick-up, les gros, gros pick-up. À coup de subvention du gouvernement, direct, indirect, hein? Parce qu'on veut garder l'économie, parce qu'on veut garder les salaires, on subventionne ces compagnies-là. De facto, on subventionne ces monstres-là. Et je trouve que ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Et je vivais un petit moment de frustration. Je l'ai partagé sur Twitter. Surtout Dodge qui est un coefficient Fiat, hein, c'est Fiat en fait en arrière maintenant, qui a un coefficient d'optimisation du carburant complètement nul et indécent. J'ai publié sur Twitter cette annonce-là où on voit un gros pick-up et pour info encore, ben ici en Amérique du Nord, c'est un moyen de transport de loisirs quotidien. Et quand on dit qu'au Québec, 75% des gens, en Amérique du Nord, ça doit être à peu près les mêmes proportions, sont seuls dans leur véhicule, vous comprenez tout de suite le problème, qu'on a des gros véhicules qui sont complètement inutiles pour le besoin, mais complètement inutiles pour le besoin, et qui en plus ne font véhiculer qu'une personne. Alors évidemment, je le répète, ceux qui en ont besoin pour le travail, c'est pas à eux autres que je m'adresse quand je vis ma frustration. Je m'adresse vraiment à ceux qui achètent des gros pick-up. Et puis là, en Europe, là, vous parlez de VUS, vous dites que c'est des gros VUS, mais vous n'avez rien vu de ce qu'on fait, nous, en Amérique du Nord. C'est des monstres épouvantables. Je mesure presque 2 mètres, ils sont plus hauts que moi. Le capot m'arrive en dessous du menton pour dire à quel point c'est gros. Et beaucoup de gens ont une grande majorité des gens en Amérique du Nord se déplacent avec ces véhicules-là pour le loisir. Beaucoup prennent ces véhicules-là pour aller chercher du pain, qui bien souvent est accessible à pied en 10 minutes de marche. C'est pour vous expliquer. Alors, Dodge, Ford, GM, Toyota hein, aussi, Nissan, beaucoup de ces fabricants-là font beaucoup d'argent parce qu'au prorata de production, ça coûte pas beaucoup plus cher à un de ces fabricants-là de faire un petit véhicule versus un gros. Les marges sont beaucoup meilleures sur des gros. Alors, on va pousser les gros, puis on va faire de la com sur les gros, faire des promotions sur les gros. Et je trouve ça ahurissant de fêter un 75e anniversaire d'un monstre en le reproduisant en 2020. C'était un peu l'objet de mon tweet. Et ce matin, Yves Menou, une personne qui me suit, commence sa phrase avec un... commence sa réponse avec un... une phrase qui... Je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé, sa phrase. On tolère bien tes photos de hamburgers sans viande. Chacun son droit, un truc comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Et les gens en ont besoin pour travailler. Alors tout de suite, d'emblée, je dis, j'exclus les gens qui en ont besoin pour travailler. C'est clair, je le reconnais, ça. Mais ici, en Amérique du Nord, les véhicules les plus vendus sont des pick-up. Et c'est pas pour travailler. J'en vois une quantité pharaonique sur les routes. Je suis moins sur les routes, mais quand j'étais sur les routes avant le COVID, vide, des modèles en cuir, des modèles, tu sais, vous savez, c'est ces modèles-là qu'on sait qu'ils ne vont pas aller dans des chantiers travaillés ou dans la forêt. La totalité, la grosse majorité, voire la totalité, sont faits pour du transport de loisirs. Alors, son tweet à Yves Menou, il est dans deux parties. On tolère tes hamburgers sans viande. Je sais pas si on est encore en 2020. Ah, il m'a mis un clin d'œil avec ça. Bon, bref, on va passer. Mais la suite, c'est laisser vivre un peu les gens comme ils veulent. Non, vraiment pas. On le voit très, très bien avec la pandémie. Quand on laisse les gens un peu vivre comme ils veulent, ben, il y a des deuxièmes vagues, il y a des morts, et ainsi de suite. Il faut protéger l'homme de lui-même. Et je considère qu'en matière d'écologie, je trouve ça inadmissible qu'on laisse les gens encore s'acheter, se procurer ce type de véhicule-là, avec une efficacité vraiment, vraiment mauvaise. Alors, ils vont arriver des pick-up électriques bientôt. Ça va déjà être moins pire. Mais le problème reste autant là d'avoir des gros véhicules lourds. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille d'écouter un podcast que j'ai fait avec Mathieu Blanco dans l'Éclectique, où on parlait justement de ces enjeux-là de véhicules. Alors, pour ajouter par-dessus, le gouvernement québécois a une cible ambitieuse, et je vais vous partager mon avis après, d'être carboneutre d'ici 2050. Alors, je trouve que c'est vraiment pas ambitieux. D'autant plus qu'on a tout pour descendre ces cibles-là beaucoup plus basses, beaucoup plus rapprochées de ce qu'on vit en ce moment. Sur deux axes. D'abord, ici au Québec, 95% de production d'électricité est renouvelable, entre guillemets. Là. C'est des barrages hydroélectriques. Et le deuxième aspect, ben, on est en ce moment en pleine pandémie, deuxième vague. Les chiffres baissent pas vraiment. Ils sont beaucoup moins élevés qu'en Europe. beaucoup au prorata, hein? Mais les chiffres ne baissent pas. Donc, il y a deux axes que je vois atteignables, c'est-à-dire commencer dès maintenant à faire la promotion durable du télétravail, d'un espèce de changement de société. Parce qu'on y est déjà. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On pollue moins. C'est factuel. Il y a beaucoup de télétravail. En France, c'est pareil. Et nous, ben, en plus, ben, on a l'hydroélectricité. Alors, les cibles carboneutres sont quand même relativement simples à atteindre. Il ne restera plus qu'à légiférer, exemple, mettre les vrais tarifs sur la viande, l'agriculture qui est mauvaise, le lait. Ils sont très, très subventionnés, hein. Et si on commençait à payer le lait, les produits laitiers, le vrai prix, sans subvention, et la viande, il y a beaucoup de personnes qui se tourneraient vers des solutions plus végétales. Et là, mon hamburger sans viande deviendrait assez attrayant. Bref, tout ça pour le documentaire de David Attenborough, qui était vraiment, vraiment bon. Je ne saurais que vous le conseiller chaudement de l'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée. Et là, je vais le fermer, l'enregistrement, avec des gants adaptés pour ça. Allez, salut, ciao, ciao.